Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour. Et aujourd'hui, c'est Sans détour que nous parlerons de quelques sujets importants. Nous parlerons du soutien financier du gouvernement pour les bibliothèques pour personnes malvoyantes, les distributions de livres et d'œuvres. On en parlera avec Mme Lindsay Tyler. Le financement est en train de disparaître sous nos pieds. Parlant également d'intervention gouvernementale, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec Véronique Vézina. Nous parlerons de la priorisation dans la campagne actuelle de vaccination. Est-ce que les personnes handicapées ne devraient pas être vaccinées plus rapidement, surtout dans un contexte de fragilité à la fois sociale et physiologique? Nous parlerons également avec un chercheur de l'Université McGill, M. Philippe Archambault, qui est à la tête d'une entreprise de cohésion de recherche, de mise en commun des ressources qui s'appelle Société Inclusive. Mais pour faire les choses différemment aujourd'hui, nous allons commencer par la fin. Nous aurons Mme Christiane Campagnac qui va faire avec nous la revue de presse et le tour du monde. Bonjour Christiane, comment ça va?
Bonjour François, ça va bien? C'est bon de briser la routine de temps en temps.
Ah oui, il faut surprendre et rester, rester sur nos gardes. Alors, tu es revenu de ton tour du monde 30-40 minutes plus rapidement que d'habitude?
Oui, exactement. Ben, c'est parce que c'est pas partout qu'on a changé l'heure en fin de semaine.
Ah voilà, c'est ça. Tu reviens de Saskatchewan ou d'Europe?
D'Europe principalement, on va voir ça dans quelques instants. Juste avant, quelques mots sur transport adapté et vaccination. Mm-hmm. J'allais à la recherche d'informations, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais à Montréal, le RUTA nous signale que les personnes qui habituellement n'ont pas droit à l'accompagnement dans le transport adapté peuvent demander exceptionnellement d'être accompagnées pour se rendre au centre de vaccination. Donc, les personnes visées sont les personnes ayant une déficience visuelle, intellectuelle, mm-hmm. un trouble du spectre de l'autisme ou nécessitant une prise en charge. Donc, vous devez le demander au moment de votre réservation.
Et si ça suppose plus de passagers, est-ce que ça veut dire que le service va s'étirer?
Ça, les paris sont ouverts.
Oui.
La MRC de Joliette offre la possibilité aux clientèles visées par la campagne de vaccination d'aller se faire vacciner donc en utilisant le service de transport adapté de la MRC de Joliette sans devoir compléter les documents habituellement nécessaires pour y être admis.
D'accord.
Et évidemment, c'est valide seulement pour les déplacements vers les lieux de vaccination. Et du côté de la ville de Latuc, on a mandaté aussi l'organisme qui s'assure de leur transport adapté d'offrir des services en commun gratuitement pour la vaccination contre la COVID-19. Donc, vers les centres multiservices là, du Haut-Saint-Maurice. On veut s'assurer ainsi que les personnes de mobilité réduite, les personnes handicapées, les proches aidants, les personnes qui n'ont pas moyen de transport puissent se faire vacciner sans frais de transport.
Bon, mais c'est très bien. C'est malheureux que la Tuque soit et que la Haute-Mauricie ne soit pas un bassin de population plus large. Là, mais on leur lève notre chapeau d'avoir fait ce qu'ils pouvaient faire dans leur coin.
Exactement. Là, on s'en va en Belgique maintenant. Mm-hmm. Où les droits du handicap viennent d'être inscrits dans la Constitution depuis vendredi dernier.
Okay.
En fait, c'est une revendication de longue date des associations de personnes handicapées belges. Et maintenant, après le Sénat, c'est la Chambre qui a approuvé ce projet de révision de la Constitution qui consacre le droit des personnes handicapées à participer pleinement à la société. Alors, selon les auteurs de ce texte, qui sont deux sénateurs, il s'agit d'une reconnaissance qui n'est pas seulement symbolique, parce qu'elle implique aussi des effets juridiques pour les pouvoirs publics, qui devront veiller davantage aux aménagements, aux discriminations positives, notamment pour garantir aux personnes un usage des services publics similaire aux autres.
Parce que là, il y a une obligation de prendre les moyens nécessaires pour que ces droits nouvellement enchâssés dans la Constitution belge puissent être...
C'est ça, là, quand ça devient Constitution, c'est qu'il y a de vrais recours juridiques.
Il y a un devoir, d'y arriver, oui. En fait, c'est une très bonne nouvelle, ça me surprend un peu, ça me semble tard, 2021, là. Dans d'autres pays, c'est arrivé plus tôt, ça me semble.
Il y a des lois cadres, mais que ce soit à ce point dans la Constitution, je ne sais pas combien d'exemples on pourrait trouver.
Oui, c'est vrai. L'ONU a fait quelque chose, mais ce n'est pas tout le monde qui a suivi le train.
C'est ça. Bien, on espère que, justement, dans l'article que j'ai pris sur handicap.fr, on espère que ça aura un effet d'entraînement dans l'Union européenne.
D'accord.
Maintenant, ça va à Paris, où on travaille à rendre les lieux olympiques plus accessibles. Donc, Paris 2024 veut vraiment laisser un héritage d'inclusion. Déjà, ils ont choisi un seul et unique logo pour les Jeux olympiques et paralympiques.
Ah, c'est bien ça. Ça fait des Jeux, point.
Voilà, exactement. Ils ont fait une campagne mettant en lumière des portraits d'athlètes handisport, comme on dit en France.
D'accord.
Et maintenant, on s'attaque donc à l'accessibilité. La préfecture d'Île-de-France a donné le mandat au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, d'accélérer l'adaptation des itinéraires piétons autour des gares, autour des lieux d'équipement sportif. On a fait appel à des personnes en situation de handicap ayant différents types de handicap aussi pour voir avec eux quelles étaient les difficultés rencontrées. Parce qu'on se rappelle que souvent, hein, quand on pense accessibilité, on pense
mobilité.
Mobilité pour les personnes qui ont un handicap moteur. Donc, on a eu des commentaires sur des lieux parfois difficiles à trouver, des cohabitations avec les vélos qui étaient compliquées, la cohabitation piéton-cycliste, tout ça. Alors, face à ces constats, le CEREMA publie un guide qui contient plusieurs recommandations d'ordre général, tout d'abord, puis aussi va essayer de voir est-ce que ces sites-là règlent les différentes problématiques.
Parce que souvent, dans des événements avec des grandes foules, ainsi de suite, il y a beaucoup de mobilier urbain, beaucoup de signalétique, mais aussi beaucoup de choses comme des supports à vélo ou des trucs décoratifs, des bornes pour canaliser le flot de la foule vers une entrée ou vers une sortie. Puis ce mobilier urbain-là, c'est pas toujours évident à négocier. Alors ça aussi, il faut y penser. Ça donne l'impression qu'il y a en France, à Paris du moins, une plus grande conscientisation parce que nous parlions, il y a de ça quelques semaines, du projet de REM français, si on peut l'appeler comme ça, là, de train rapide qui va desservir la grande banlieue, où il y avait beaucoup d'efforts en amont pour que les trains soient adaptés, que les gares soient adaptées.
Oui, on se rend compte. Si je peux annoncer de plus en plus de bonnes nouvelles à chaque semaine...
C'est tant mieux. Mais il me semble que des nouvelles importantes d'infrastructures viennent fréquemment de Paris de ce temps-ci.
Oui, absolument. Il faut dire que j'ai beaucoup fouillé dans les sources françaises récemment. Je trouvais que j'avais fait beaucoup d'États-Unis pendant un certain temps. On reste en France parce que ce soir aura lieu la remise des Marius de l'audiodescription. Ça se passe à 21h, heure de France. Donc, ce que les Français appellent audiodescription, c'est ce que nous, on appelle vidéodescription. Il s'agit donc d'un prix qui est remis depuis 2018 avec un jury essentiellement composé de personnes ayant un handicap visuel.
D'accord.
Et on récompense la version audio décrite, qu'ils ont préférée parmi les nominés de la catégorie meilleur film des Césars.
D'accord.
Cérémonie qui avait lieu hier en France. C'est une initiative de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes. Les films en nomination sont toujours donc ceux en compétition dans la catégorie meilleur film, sauf que le jury ne tient compte que de la qualité de l'audiodescription.
Et non pas de savoir si le film qui a remporté le César d'hier est celui qui doit nécessairement gagner aujourd'hui, parce que là, on parle vraiment purement de l'audio.
Oui,
l'audiodescription. Voilà.
On dit qu'on le décerne au film dont l'écoute aura permis aux personnes mal et non-voyantes de mieux comprendre les scénarios et d'en apprécier le contenu. Il s'agit donc, ils n'ont pas besoin d'un jury qui ait des compétences cinématographiques. On va plutôt analyser les infos à l'écran, générique, nom, année, la voix, intonation et neutralité, la rédaction qui doit être simple et concise, mais aussi la cohérence de la description. Dans une entrevue avec différents membres du jury, il parlait notamment, une dame disait qu'une audiodescription est réussie si l'audiodescripteur parvient à se fondre dans l'ambiance
du film.
À se faire
oublier, oui, c'est vrai.
Si le vocabulaire est précis, le style en accord avec le ton du film et que les actions doivent être minutieusement décrites. Elle racontait que, par exemple, récemment, elle a entendu, dans l'audiodescription, elle lit un livre. Mais son mari lui a indiqué qu'on pouvait voir le titre du livre à l'écran.
Oui, oui, oui. Puis ça, c'est peut-être important pour l'histoire, savoir... Oui, je comprends.
Souvent, si le cinéaste choisit qu'on voit le titre du livre, c'est qu'il...
Il y a un indice.
Il y a un indice, ou du moins, ne serait-ce que pour la personnalité.
Oui, oui,
personnage.
Peindre la personne par ses goûts, et ça donne une ben, ça fait partie de l'intention du réalisateur, comme vous dites. Alors voilà, il faut le dire.
Alors les films en nomination sont « Adieu les cons », une réalisation d'Albert Dupontel, « Adolescente » de Sébastien Lifshitz, « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret, et finalement « Été 85 », un film de François Ozon. Et bonne nouvelle, on peut assister à la cérémonie ce soir sur la chaîne YouTube des Marius de l'audiodescription.
Ah, mais comme ça, et c'est pas comme d'autres prix pour comme les Oscars, les Golden Globes, où il y a souvent des favoris qui sont connus 10 jours d'avance, là, qui semblent avoir la pole position. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu difficile de savoir vers quel film le jury va pencher, là.
Oui, parce qu'on sait que pour la majorité des grands prix, il y a comme presque une campagne électorale.
Oui, oui, oui. Campagne de presse pour influencer ceux qui ont à voter pour ce genre de récompense. Oui, tout à fait. Mais
exactement.
C'est très bien que ça devienne quelque chose de reconnu, parce que ça incite à ce moment-là les artisans en audiodescription de faire de leur mieux.
Oui, puis ça mène à une certaine médiatisation de ce qu'est la vidéodescription, de son utilité, de ce que c'est en faire une très bonne. J'imagine que c'est bon pour l'aura là, de côté marketing de la compagnie de production. Alors, peut-être que faudrait songer à avoir ça ici.
C'est ce que je me disais. Il y en a quand même beaucoup de productions au Canada. Au Canada, ici, il y a des boîtes qui sont des fleurons de l'audiodescription, et ça devient monnaie courante maintenant dans les productions cinématographiques plus récentes. Enfin, monnaie courante, ça se fait. Plus pour les émissions de télé, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à regarder. Là.
Au nombre de Gémeaux qui sont repris, là, sont remis à chaque année, un de plus.
Un de plus, là, ou ce serait pas une mauvaise chose qu'il y ait un Emmy aussi pour les émissions de télé aux États-Unis. Ce serait pas mauvais.
L'idée, c'est que quand les gens ensuite voient passer une liste des gagnants sur Internet, dans les journaux, ça rappelle ne serait-ce que l'existence de la chose.
Mm-hmm.
Ah oui, c'est vrai!
Ah, il y a ça aussi!
Les personnes non-voyantes aussi s'intéressent au cinéma, parce que dans la population générale, on pense peut-être que ça n'intéresse tout simplement pas les gens.
Non, ça c'est... ça c'est... J'ai entendu ça de temps en temps aussi. Voilà.
Oui, hein?
Oui, c'est des choses qui arrivent. Alors...
Ben, je reviens chez nous pour vous parler des invités de Camille Chase, vendredi, aux Passions de Camille. Elle va recevoir Lucie Giroux, qui a récemment perdu la vue et qui a créé un groupe Facebook de soutien.
Ah ben oui, les Mousquetaires!
Exactement, les Mousquetaires avec canne blanche. Et elle va aussi s'entretenir avec Karine Fortin, qui, elle, a fait un AVC à l'âge de 27 ans et qui a dû devenir gauchère.
Oh, OK.
Et malgré cela, elle est aussi devenue peintre.
Mais est-ce que l'AVC a eu d'autres... Elle a perdu l'usage du côté droit, là. Elle a été obligée de développer sa dextérité à gauche.
Voilà, mais pour en savoir davantage, il va falloir écouter Camille.
Il faut écouter Camille, vendredi midi.
Exactement.
OK.
Et je vous invite aussi tous les jours à 10h15 à l'émission Au quotidien. Hélène Denis mène des entrevues en lien avec soit le handicap, la santé mentale, les aînés, les proches aidants. Notamment, demain, on va découvrir les services offerts aux femmes proches aidantes au Y des femmes de Montréal.
D'accord. Ça, c'est bien. C'est important, ça. Parce que avec le confinement et tout ça, les proches aidants, on a besoin d'eux. Et eux aussi sont fatigués avec tout ce qui arrive depuis un an déjà. Ouf!
Oui, tout à fait. Et pour ceux qui veulent élargir leurs horizons, qui s'intéressent aux livres audio, mais qui s'intéresseraient aussi aux balados, Hélène mène régulièrement des entrevues avec les artisans de balado. La semaine dernière, vous pouvez aller l'écouter, elle a parlé avec Mathieu Charlebois et Colin Boudria, qui ont un balado qui démystifie la conspiration QAnon. Et cette semaine, c'est le mois de la nutrition, alors elle va s'entretenir avec Catherine Lefebvre du balado On s'appelle et on déjeune.
Oui, ça aussi c'est important, parce qu'avec le confinement, je pense que les gens n'ont peut-être pas toujours pris les bonnes habitudes, hein? Pour ce qui est de se nourrir, là, c'est facile. On bouge moins, on devient plus pyjama, là. On a peut-être tendance à déjeuner trois fois dans la journée.
Ouais, il y a aussi des gens pour qui l'anxiété de la pandémie a bloqué. Les gens n'osaient plus sortir, n'osaient plus aller à l'épicerie. Mm-hmm.
Exact.
Et souvent, ça amenait les gens très mal à s'alimenter. Les hôpitaux ont même noté une hausse des cas de scorbut.
De scorbut?
Oui.
Ouh, je pensais que ça avait. Je pensais que le scorbut, c'était sur les navires de Jacques Cartier, là, quand ils traversaient, puis ça prenait deux mois.
Oui, bien, c'est une carence alimentaire. Alors, si on se retrouve à manger que des pâtes,
c'est
peut
pas très bon.
Un problème.
C'est la vitamine C, je pense, hein, le scorbut.
Oui.
Parce que le truc, c'était de manger des citrons ou des oranges. Je me souviens qu'il y avait un truc dans la Navy britannique là, où il forçait les marins à manger des citrons.
Oui, alors, c'est,
ça donne toujours, évidemment, un air souriant à quelqu'un quand on fait ça. Voilà.
Absolument.
Bien, c'est super, ça. Merci beaucoup, Christiane.
Je vous en prie.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Un métier qui se perd, poinçonneur, voilà. Mais on n'a pas perdu Gainsbourg. Monsieur Philippe Archambault, vous êtes professeur à l'Université McGill et directeur scientifique de Société inclusive. Quel beau nom! Tout le monde y aspire, à la Société inclusive. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une entreprise? C'est une conférence? Comment ça marche?
Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'avoir invité. C'est une initiative de recherche. Donc, on est un réseau de chercheurs québécois,
d'accord,
je dirais, à la grandeur du Québec, financé par les fonds de recherche du Québec. Et notre équipe a comme but là d'améliorer par la recherche l'inclusion sociale de personnes en situation de handicap.
D'accord. Et ça, c'est, en fait, vous voyez à faire tomber les murs qui sépareraient des initiatives prises à gauche et à droite.
On essaie vraiment fort.
D'accord.
Mais peut-être une de nos particularités aussi, c'est, je pense qu'il peut-être rejoindre vos auditeurs en plus de nos buts, c'est que on agit par la recherche participative, c'est-à-dire que on fait des alliances ou des collaborations entre des chercheurs et des non-chercheurs, des partenaires là, qui peuvent être des organismes communautaires, des organisations culturelles, des services municipaux. On ratisse assez large. Mm-hmm. Puis le but vraiment, c'est de répondre aux besoins de ces partenaires-là, pas des besoins des chercheurs. Puis de partir des besoins, puis de trouver les chercheurs là, qui vont pouvoir faire partie de l'équipe.
Donc, vos partenaires, ça peut inclure aussi des regroupements de ce qui seront les usagers futurs ou des innovations qui vont ressortir de cette recherche?
Oui, tout à fait. Puis on espère comme ça, en ayant des projets qui répondent à leurs besoins, bien, de pouvoir les aider à répondre à des questions qu'ils auraient, de changer des pratiques et tout ça.
Bien, ça assure la pertinence de vos travaux, parce que c'est sûr que parfois, vu de l'extérieur, on a l'impression que la recherche scientifique dans le milieu universitaire, il y a souvent des choses qui sont théoriquement, je dirais, intéressantes, mais peu d'applications pratiques. Alors, il y a aussi un aspect de votre démarche qui s'appelle des recherches intersectorielles. Qu'est-ce que c'est?
Oui, bon, c'est peut-être un terme un peu technique, mais les fonds de recherche du Québec sont divisés en trois fonds. Il y a un fonds santé, un fonds nature-technologie, puis un fonds société-culture. Et depuis, je dirais, 8-10 ans, il y a une volonté des fonds de recherche d'avoir des projets qui sont intersectoriels, donc à travers tous ces secteurs-là. C'est par le biais de ce programme-là qu'on a été financé. Donc, de notre côté, ça veut dire qu'on s'intéresse des technologies qui peuvent avoir un impact en réadaptation puis en inclusion sociale. On regarde à la frontière de justement santé et inclusion sociale et société. Alors, tout ça là, est bienvenu là, chez nous.
Alors, ça peut aussi bien toucher le l'environnement physique de la société, que son utilité, enfin l'impact que ça peut avoir sur la perception que la personne en situation d'handicap a d'elle-même ou de son inclusion ou de sa place dans la société. Il ne faut pas que ce soit trop pointu. Est-ce que vous pouvez nous donner, avant d'aller aux exemples de ce que vous avez fait, ça fait combien de temps que ça existe?
Depuis 2017.
OK, d'accord.
Oui. Alors, c'est sûr que... jeune.
Puis la recherche, c'est long. Avant de mettre tout le monde autour de la table puis démarrer un projet, ça se fait pas le lendemain midi, là. Ça prend un peu de temps pour rassembler tout le monde. Donnez-nous des exemples. Quels vont être les premiers fruits de votre activité?
D'accord. C'est important de dire que notre équipe, notre rôle, c'est vraiment de mettre en lien des chercheurs puis des partenaires. Alors, on fait pas les projets de recherche nous-mêmes, là, mais on a eu vraiment beaucoup de projets. Sur notre site web, on a toute la liste, là. Mais je peux vous en nommer quelques-uns. Dans le domaine culturel, par exemple, on a une équipe qui a regardé une expérience décontractée, là, une représentation décontractée. Alors, les effets de ça, puis l'accessibilité, en plus de regarder l'accessibilité dans le théâtre. C'était avec le centre Segal, là, qui est sur Côte-Sainte-Catherine.
Oui, oui.
On a eu un projet de recherche en lien avec les bibliothèques qui ont regardé l'accessibilité des salles. La plupart des bibliothèques se sont dotées de salles, de groupes pour faire toutes sortes d'activités. L'équipe a regardé l'accessibilité de ces salles-là puis des activités. On a eu peut-être un projet récent qui est plus technologique, là, pour donner un autre exemple. C'est un projet de ceinture.
Oui, le Smart Belt.
Ah oui, exactement.
La ceinture intelligente.
Exact. Fait que ça vient de la robotique. On a des chercheurs là, en génie qui s'intéressent à l'orientation des robots dans l'espace, là, pour toutes sortes d'affaires, pour pouvoir interagir là, dans notre monde. Et puis, par le son, c'est une des façons. Fait que, en ayant plusieurs microphones, on peut, un peu comme les oreilles fonctionnent, on peut détecter d'où viennent les sons, mais on peut reproduire ça un peu avec avec la robotique, avec plusieurs microphones, de trouver d'où viennent les sons, puis de pouvoir s'en servir de cette technologie-là qui existe pour faire une ceinture intelligente qui donnerait des vibrations selon la provenance des sons, là, donc pour pouvoir aider l'orientation des gens... dans l'espace, voilà.
Cette idée-là est destinée en particulier aux gens qui vivent avec une surdité,
Exact.
Donc, oui. Ils auraient une idée de...
Plus avec les gens qui auraient un problème, une déficience visuelle, parce que ça leur permettrait de s'orienter par rapport au son dans l'espace.
D'accord, d'accord. Donc, s'il y a quelque chose qui tombe, qui fait du bruit, qui est à peu près à 120 degrés à ma gauche, c'est-à-dire à peu près à 7 heures sur une horloge, là, ça va vibrer de ce côté-là sur ma ceinture.
Exactement. Fait qu'il y aurait une vibration qui serait... qui indiquerait là la direction des sons.
D'accord.
C'est sûr que là, c'est en prototype.
Oui,
alors,
oui.
Ils font des expériences plus en labo pour voir si les gens sont capables de s'orienter. Fait qu'on est quand même loin, là, de ben, loin.
De la coupe.
Ça va prendre quand même un peu de temps avant de pouvoir utiliser ça à l'extérieur, là. Mais,
J'ai vu aussi que sur votre site, il était question d'un outil de navigation web ou pour faciliter la navigation sur le web.
Oui, ça aussi, c'est de notre dernier... parce qu'on essaie d'avoir des rondes, on finance certains projets. Puis là, c'était par un dispositif externe. Celui-là, je le connais un peu moins bien, je suis désolé.
Il
n'y
a pas de problème.
Mais c'est un dispositif externe qui permettrait de s'orienter dans une page plutôt que... Parce que les lecteurs d'écran vont lire là, dans un certain ordre tous les éléments d'une page. Puis si la page est longue, ça peut être difficile là, de retrouver le bon endroit. Fait que je pense que ça va être un genre d'outil tactile qui va être comme une carte de la page, puis qui va pouvoir permettre de revenir là, à différents endroits dans la page.
Comme si, c'est comme si l'écran, tout d'un coup, avait un relief, qu'on était capable, par perception du bout des doigts, de savoir qu'est-ce qu'il y a sur la page.
Exactement. Puis de pouvoir retourner à des sections de la page. Je pense que ça va être dynamique, puis ça va s'adapter là, aux différentes pages Internet. Là.
Est-ce que vous avez des projets qui sont prêts d'aboutir? Est-ce qu'il y a une intention de commercialisation de ces projets-là?
Ben, ça dépend des équipes, mais dans les projets qui ont abouti, par exemple, je peux vous en parler d'un où j'ai été impliqué, qui était un projet de formation avec la Société de transport de Montréal, la STM, pour entraîner les gens qui auraient avec des déficiences physiques à utiliser le transport régulier.
Ça
pour leur donner
être
une
intéressant, ça.
Par rapport au transport adapté. Donc, mais pour qu'ils puissent utiliser les deux là, de façon sécuritaire.
Une piste intéressante, ça. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Archambault. je dois vous laisser. M. Philippe Archambault de l'Université McGill, qui est directeur scientifique de Société inclusive, un réseau de recherche interuniversitaire au Québec qui va essayer de trouver des solutions pour que la société soit inclusive.
Merci beaucoup de l'invitation encore une fois.
Ça fait plaisir.
Ici, écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Tous aux barricades, il y a un appel qui a été lancé par le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, CAEB, que vous connaissez probablement si vous faites usage de livres audio, et le Réseau national de services équitables de bibliothèques. Ces deux organismes ont appris de façon surprenante et brusque que le gouvernement fédéral avait l'intention de couper les sommes qui leur sont versées chaque année, déjà depuis plusieurs années. Ce 4 millions va tendre à disparaître et c'est une nouvelle qui est tombée vraiment là, comme un pavé dans la mare. J'ai avec moi Mme Lindsay Tyler. Bonjour Mme Tyler, vous êtes gestionnaire principale du Centre d'accès équitable aux bibliothèques.
Oui, bonjour.
Et là, on essaie de faire réagir le gouvernement parce qu'il y a quelque chose qui nous pend au bout du nez, là, qui n'est pas agréable.
Non, c'est ça. Ces coupures auront un effet important sur nos collections et sur nos lecteurs. Pour nombreux de nos lecteurs, les services du CAEB sont une source ou peut-être la seule source de lecture accessible et c'est important de pouvoir lire comme tous les autres membres de la communauté.
Parce que les services que vous offrez, c'est ça permet à quoi? Presque, je vois dans vos chiffres, 97 % des gens, et ça compte donc 97 % de presque 3 millions de Canadiens. Vous faites circuler beaucoup de livres dans une année.
Oui, à peu près 2 millions de livres par année, mm-hmm. ou d'articles en format accessible par année. Et donc, les deux organismes desservent tous les Canadiens qui ont de la difficulté à lire les imprimés et donc rendre la lecture accessible pour ces gens-là.
Et là, il y avait depuis plusieurs années un soutien financier de la part du gouvernement fédéral qui, je pense, était de l'ordre de 4 millions par année.
C'est ça. Oui, depuis plusieurs années maintenant.
Et ce 4 millions-là, vous avez appris dans un énoncé, en lisant un énoncé économique du gouvernement en septembre dernier, qu'ils allaient tranquillement le faire disparaître. Ça va passer à 3, à 2, à 1 million et dans 3 ans, il n'y en aura plus. Vous n'avez pas été consulté?
Non, nous n'avons pas eu de préavis ou de consultation en ce qui concerne le financement et la suppression du financement. Donc, ça a été une mauvaise surprise pour nous. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nous demandons au gouvernement de venir discuter avec nous comment on peut trouver une solution durable et équitable.
Parce que quelle est la raison que le gouvernement donne dans son énoncé de couper 4 millions? Parce que c'est pas 4 millions qui va faire une grande différence dans l'énorme déficit que le gouvernement va annoncer bientôt, là, suite à la pandémie.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais le gouvernement a donné un appui important à l'industrie, aux éditeurs canadiens, important pour aider les éditeurs à rendre leurs livres accessibles. Mm-hmm. Et c'est un pas très important que nous soutenons aussi. Mm-hmm. Mais ce n'est pas parce que l'industrie du livre au Canada rend les livres accessibles que le problème est
réglé.
C'est ça, il est réglé. Donc, même les éditeurs canadiens indépendants, nous avons appuyé dans notre campagne parce que eux aussi reconnaissent que même si ils s'engagent à produire des livres accessibles dès la publication, mm-hmm. il y a quand même un rôle important pour les organismes comme le CAIEB dans cet écosystème de lecture accessible.
Parce qu'il y a la distribution aussi qui y est pour quelque chose, d'avoir une bibliothèque audio qui existe, c'est une chose. Deux, il faut la distribuer par la suite et voir que ça circule entre les mains des gens qui vont en faire usage. Parce que au moment où on se parle, j'ai vu le chiffre de 10% seulement des nouvelles publications qui sont immédiatement disponibles en audio.
Ou en format accessible en général, mm-hmm. c'est ça. Donc, déjà, nos lecteurs ont un accès limité.
Très limité.
Beaucoup plus limité que la plupart des Canadiens. Et donc, diminuer ce petit nombre de livres qui est disponible serait vraiment, vraiment dommage.
Dans votre budget d'opération dans une année pour produire des livres, les distribuer, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une production et vous distribuez aussi des choses qui sont dans une bibliothèque, mais qui peut ne pas être la bibliothèque à côté de chez soi. Mm-hmm. Il y a une façon de voir à mieux répartir le pool de livres qui existent sous forme autre qu'écrite. Donc, dans votre budget d'opération, 4 millions, ça représente quelle portion de votre année?
Le 4 millions est partagé entre le Réseau national de services équitables de bibliothèques, mm-hmm. qui est l'autre organisation au Canada qui fournit ces services. Donc, nous recevons 3 millions.
D'accord.
Et ce 3 millions, ça finance la production de livres en format accessible, en braille, en format mmh. sonore et ou version sonore et texte électronique. Et aussi, ça finance la distribution de livres en format physique, comme les CD mmh. et le braille sur papier. Et ça représente à peu près 60% de notre budget. Donc, c'est important. Et surtout, c'est important parce que ça nous permet d'offrir de nouveaux livres, d'enrichir mm-hmm. nos collections. Et en enrichissant nos collections, ça permet aux lecteurs de lire les mêmes livres que leurs amis peuvent exact. Lire, de participer à des discussions, à des programmes de lecture, tout ça. Et ça, c'est vraiment l'impact réel de nos services.
Tout à fait, parce qu'il y a le plaisir de lire et l'information ou la rêverie, parce que ça peut être de la fiction, mais il y a aussi le fait de lire, entre guillemets, comme tout le monde, et que quand on a une discussion avec des gens qui viennent de lire le dernier best-seller, on peut dire, moi aussi, je sais ce dont il s'agit. Parce que 60 % de votre budget, qu'est-ce que vous allez être... Si ce financement disparaît, qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain? Pas grand-chose.
Mais on n'aimerait pas...
vous aimeriez ne pas avoir cette question,
oui. On espère avoir une discussion mm-hmm. productive avec le gouvernement, mais oui, ça aurait un impact négatif sur notre capacité d'offrir de nouveaux livres et de les distribuer aux gens qui ont besoin de format physique.
Parce que ce que le gouvernement vous dit, c'est aller chercher de l'argent ailleurs ou vous êtes tranquillement en ce qu'on appelle un « phase out » et l'industrie privée va prendre la relève. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais les gens, par exemple, qui utilisent le braille, eux tombent carrément entre les deux chaises, parce que je pense, est-ce qu'il y a une obligation pour les éditeurs canadiens à produire des livres en braille?
Non, et c'est ça aussi le problème. Même si l'industrie s'engage à produire des livres accessibles dès la publication, il y a certains secteurs ou certains lecteurs qui n'auront jamais, certains
accès.
Besoins qui ne seront jamais comblés mm-hmm. Par l'industrie. Par exemple, le braille, dont le nombre de lecteurs est assez petit, mais le braille est tellement important et ça représente vraiment la littératie pour ces lecteurs-là et l'indépendance. Donc, on ne peut pas quand même oublier ces lecteurs et l'importance de ce format. Il y a aussi beaucoup de livres moins populaires qui seront probablement pas produits en mm-hmm. format sonore, par exemple.
Oui, parce qu'on peut penser que il y a une différence entre les livres qui viennent tout juste d'être publiés, mais il y a aussi des choses qui ont été écrites il y a 5 ou 10 ans qui, elles, ne seront jamais disponibles à moins que vous les produisiez.
Mm-hmm. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement... Et il y a aussi l'importance du traité de Marrakech qui nous permet d'échanger des livres mm-hmm. et avec des pays internationaux, donc d'autres pays. Donc, c'est aussi au niveau international que nous et le RSNEB agissent, mm-hmm. encore une fois, pour rendre la lecture plus équitable et plus accessible aux Canadiens et aux personnes ayant de la difficulté à aller les imprimer partout au monde.
Donc, parce que c'est la ministre Qualtrough, je pense, qui était responsable de ce dossier-là. Mm-hmm. Ministre Qualtrough, qui, rappelons-le, est elle-même handicapée visuelle. On pourrait la penser sensible à ces choses. Sur votre page web, vous avez, je dirais, vous donnez des outils de mobilisation aux gens pour faire pression sur leurs députés ou sur les instances gouvernementales ou d'écrire directement à la ministre responsable et à mm-hmm. Mme Freeland, qui est maintenant vice-première ministre et ministre des Finances, et Mme Qualtrough. Parce que, en fait, si vous allez sur le site... Caeb, vous avez trouvé des exemples de lettres ou de choses qu'on peut faire ou des adresses ou des courriels, ainsi de suite. Parce que là, vous menez une campagne pour faire pression avant que tout ça devienne fait accompli.
C'est ça. Nous demandons aux gens qui s'intéressent à la lecture accessible et équitable d'écrire à leurs députés. De nombreuses personnes l'ont déjà fait mm-hmm. et je pense que nous attendons maintenant une réunion avec le ministre et nous espérons travailler avec elle et avec le ministère pour trouver
solutions.
Une solution, une bonne solution à ce problème. Mais oui, les gens peuvent écrire à leurs députés pour exprimer l'importance de ces services dans leur vie ou dans la vie de leurs proches. Et je pense qu'on nous entend et c'est important de se faire entendre parce que c'est pas c'est pas un service qui est très bien connu, mais non. qui est très important
qui est primordial, tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Tyler. Mme Tyler, vous êtes gestionnaire principale du Centre d'accès équitable aux bibliothèques, un service que les personnes handicapées visuelles connaissent certainement très bien. Et de là, l'importance de réagir avant que le gouvernement ne coupe les vivres. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
On va continuer parce qu'avec David Bowie, on pourrait dire « Ah, j'en veux une autre ». Non, on va enchaîner, mais c'est important ce dont on va se parler. Les organismes de défense de droits demandent au gouvernement du Québec de prioriser la vaccination des personnes en situation de handicap. Le début de la pandémie, il y a déjà un an, avait forcé les autorités publiques à prendre des mesures difficiles, contraignantes, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de choix de société à faire. Et puis maintenant qu'on est rendu dans le versant vaccination, là aussi, il y a des choix de société à faire, puis il y a des questions de santé publique qui suscite un débat. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Mme Véronique Vézina, qui est directrice par intérim de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN. Et vous me permettrez de rompre avec l'étiquette habituelle de la radiophonie et je vais tutoyer Mme Vézina car je la connais bien. Bonjour Véronique, comment vas-tu?
Bonjour François, ça va très bien, merci.
Je te remercie beaucoup. La Confédération des organismes, que tout le monde connaît plutôt sous le nom de COFAN, a fait une déclaration, a publié une lettre ouverte au premier ministre la semaine dernière.
En fait, on est en action depuis près de deux semaines avec quatre autres organismes de défense de droits. On a fait un communiqué de presse, on a publié une lettre ouverte, on s'est adressé directement aux autorités de la santé publique et du ministère de la Santé. Et on a fait une conférence de presse la semaine dernière pour demander s'il y a une vaccination pour les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des problèmes de santé mentale de façon prioritaire, parce que plusieurs d'entre elles sont soit à risque d'avoir des complications graves et même de décéder de la COVID, et d'autres sont plus à risque de le contracter.
Parce que il n'y a pas que juste une question de mobilisation aussi, il y a une question de voir quelle est la réponse des autorités. Jusqu'à maintenant, on voit d'autres régions, d'autres provinces du Canada, il y a des pays où, et même l'Organisation mondiale de la santé qui ont identifié que les personnes qui vivent en situation d'handicap sont une population vulnérable, puis au Québec, ça n'a pas bougé.
Au Québec, ça n'a pas bougé encore. Ben, je vous dirais que ça a commencé à bouger. On a appris la semaine dernière, c'est aux différentes représentations qu'on avait faites, qu'on avait déjà ouvert la porte là, pour vacciner les personnes qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui avaient des soins à domicile, un nombre d'heures important qu'ils n'étaient pas en mesure de sortir de leur domicile. Leur vaccination a déjà été autorisée là, dans la dernière semaine et celles-ci vont toutes être vaccinées d'ici le 2 avril. Par contre, on s'attend à avoir d'autres nouvelles positives là, suite aux demandes qu'on a faites depuis deux semaines pour d'autres personnes handicapées qui, eux aussi, là, devraient être vaccinées de façon prioritaire. On n'a pas de confirmation, mais on a espoir que le gouvernement a bien entendu notre message et que pour une fois, on devrait faire partie, ou du moins une partie des personnes handicapées devrait faire partie des personnes qui vont être vaccinées en priorité après les gens de 70 ans et plus.
Parce que je pense qu'entre autres, les personnes trisomiques, physiologiquement, ils sont très sensibles aux maladies respiratoires. Puis même s'ils ont une vie autonome, physiquement, ils sont des personnes qui peuvent être jeunes, mais vulnérables à une maladie du type de la COVID.
Oui, bien c'est la trisomie 21 est un bel exemple de personnes à risque qui peuvent être à risque, notamment parce que souvent, ce sont des personnes qui développent ou qui ont dès leur naissance des problèmes pulmonaires et ou cardiaques. C'est des gens aussi qui ont un vieillissement prématuré. Donc, à l'âge de 40-50 ans, ben, leur état physiologique est le même que pour une personne de 80 ans. Donc, tout comme les aînés, là, elles deviennent plus à risque de contracter la COVID. Et c'est des gens aussi qui ont besoin de beaucoup de soutien dans leur quotidien et qui ont de la difficulté à respecter les mesures sanitaires. Donc, elles se mettent à risque de la contracter de façon plus importante à cause qu'elles ne respectent pas les règles. Mais il n'y a pas juste les personnes trisomiques qui sont à risque. On parle aussi des gens qui ont des spina bifida, une dystrophie musculaire, la sclérose en plaques et même la SLA, ou les personnes de petite taille. Là, ça peut être des gens qui sont très à risque à cause que leur physiologie et leur système physiologique même les rend plus vulnérables si elles contractent la COVID, parce que souvent, elles ont déjà un espace restreint pour leur système pulmonaire et cardiaque ou qui est affaibli au niveau de l'immunité.
Alors, c'est d'autant... Et on a vu d'ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres provinces que ces groupes-là avaient déjà été identifiés comme devant être une priorité. J'ai lu hier une lettre ouverte écrite par M. François Morin au Journal de Montréal qui parlait de ses deux filles qui sont des jeunes femmes ou jeunes adultes ou, qui sont à mobilité réduite et qui sont faites presque répondre du tac au tac par des gens du gouvernement que, comme elles sont jeunes, elles ne seront vaccinées qu'en décembre. Est-ce que j'ai bien lu ou c'est une situation qui existe?
Bien, pour l'instant, c'est quelque chose qui est possible si on continue de fonctionner en fonction de l'âge. Là.
Mm-hmm.
Plus les gens sont jeunes, plus ils vont être vaccinés tard. Par contre, le comité d'immunisation du Québec a clairement dit la semaine dernière qu'il déposerait là, très rapidement au ministère une révision de la priorité dans la vaccination pour intégrer certains groupes qui sont aussi vulnérables plus tôt dans l'ordre de priorité. Donc, c'est sur ça qu'on mise actuellement là pour voir des gens comme les deux jeunes filles de ce monsieur-là pouvoir être aussi dans le niveau de priorité et pouvoir être vaccinées plus tôt.
Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont quotidiennement en contact avec une personne en situation de handicap qui peut être un aidant naturel, ainsi de suite. Alors, ces personnes-là aussi sont à risque.
Ces personnes-là sont à risque ou souvent sont confinées chez elles de façon importante mm-hmm. pour ne pas infecter les personnes avec qui elles vivent. Si on se fie sur l'ouverture qu'il y a eu la semaine dernière pour les personnes qui vivent à domicile et qui ne peuvent pas sortir de leur domicile, on a autorisé aussi à vacciner un proche. C'est sûr que ça vaccine pas toute la famille autour, mais au moins... ça permet d'avoir une personne là, qui est proche de la personne, qui lui apporte du soutien, qui va pouvoir aussi être vaccinée et s'assurer ainsi de réduire les risques de complications là, si elle contracte mm-hmm. la COVID.
D'accord. Et il y avait déjà eu une vaccination dans les CHSLD ou dans des foyers. Est-ce qu'il y a des milieux de vie comme ça qui ont déjà été couverts par la vaccination?
Pour l'instant, non. Ça fait partie des revendications. On pense aux gens qui sont en ressources intermédiaires ou en mm-hmm. ressources de type familial. Pour l'instant, seulement les gens de 70 ans et plus qui vivent dans ces milieux-là ont été vaccinés. Et parmi nos revendications, bien, on vise aussi là, les gens qui vivent dans ces milieux-là pour s'assurer qu'ils soient vaccinés de façon prioritaire, notamment parce qu'ils vivent en groupe.
Mm-hmm. Oui, et à ce moment-là, une éclosion deviendrait vraiment catastrophique parce que là, on pourrait avoir... pas un cas qui fait surface, là, mais il pourrait y en avoir 10.
Non, selon le type, le milieu.
Oui, exact.
Ça, même, souvent, il y a même jusqu'à une vingtaine de personnes là,
exact.
Dans ces types de résidences-là.
Mm-hmm. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est un aidant ou une aidante à l'intérieur de ce milieu de vie-là, cette personne-là peut aussi bien devenir attraper le virus, devenir contagieuse, rentrer chez elle. Puis là, ça SM un peu partout. Là. C'est assez évident qu'il faille intervenir.
C'est même très évident. Puis surtout qu'il y a certains milieux où les gens sont complètement isolés. Là. Quand elles sortent, elles sont isolées par la suite dans leur chambre pendant 14 jours. Surtout si elles ont accès, c'est pas juste une sortie extérieure, mais qu'elles ont des contacts, par exemple, avec un membre de leur famille. Donc, c'est pas juste le risque de contagion, mais c'est tout l'isolement qui vient autour des personnes qui vivent dans ces groupes-là. On les isole très, très rapidement pour éviter qu'elles se contaminent entre elles. Donc, ça devient parfois difficile. Ça crée des troubles de désorganisation. Certains même ont été jusqu'à se mutiler. Là, ils comprennent mm-hmm. pas ce qui se passe toujours. Donc, c'est très difficile pour elles. Ce qu'on demande actuellement, c'est que les personnes soient vaccinées. Par contre, on est loin d'être sûr. Là, si on se fie à ce qui s'est fait pour les aînés, les proches des aînés et les travailleurs de ces résidences-là n'ont pas été vaccinés en même temps que les aînés. Pour l'instant, seuls les aînés de ce type de milieu-là ont été vaccinés.
D'accord. Ça va être important, donc, parce que le gouvernement peut certainement prêter une oreille sympathique à vos revendications, mais il faut encore que ce soit d'une façon suffisamment complète pour pas qu'on crée un problème, parce qu'il va y avoir d'autres groupes qui commencent à se mettre dans la société en général, qui se manifestent pour avoir droit à une vaccination plus rapide. Je voyais ce matin les gens dans le domaine de l'enseignement, parce qu'elles sont aussi vulnérables, parce qu'elles font... Ils travaillent dans des groupes qui viennent de 30 bulles familiales différentes. Alors, c'est certain que là, il y a un danger et je ne minimise pas leurs inquiétudes, au contraire. Mais c'est normal à ce moment-ci que tout le monde dise, ben, de par mon travail ou de par ma situation aussi, je risque de me faire... Je suis un risque plus élevé que la moyenne de contracter la COVID-19. Et dans ce sens-là, les personnes handicapées, on se retrouve comme étant un de d'autres groupes. Puis le nombre de vaccins disponibles n'est pas exponentiel. Là. Il faut faire des choix. Est-ce que ça semble vouloir continuer à être par une régionalisation? Est-ce que vous avez appris ça? Ou ça va être par type de situation d'handicap?
Ben, ça va être vraiment par régionalisation, là, comme ça. C'est sûr que le ministère et la Santé publique donnent une directive générale et après ça, dans chacune des régions, c'est l'établissement, le CIS ou le CIUS qui va déterminer en fonction de où il est rendu dans sa vaccination, à quel moment ça va avoir lieu. Mais ce qui est important à dire, c'est que moi, je voudrais pas être dans le comité d'immunisation du Québec actuellement, d'avoir à faire des choix. C'est sûr que les choix ne seront pas faits sur la base de la sympathie, ils vont être vraiment faits sur la base de données scientifiques. Donc, parce qu'on sait, là, tu l'as dit, il y a énormément de groupes actuellement qui demandent à être vaccinés en priorité. Selon le président du comité d'immunisation du Québec la semaine dernière, il disait que certaines personnes qui vivent avec certaines maladies ou certaines problématiques devraient être priorisées. C'est l'avis qui devrait être soumis au ministère et c'est ensuite le ministre qui va trancher sur les recommandations qui sont faites et comment elles vont s'appliquer. Mais en bout de ligne, ça peut arriver que, par exemple, à Montréal, les gens soient vaccinés.
Oui, ça pourrait fonctionner différemment, tout à fait. Mais je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Véronique. C'est tout le temps qui nous reste. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup à toi. Au revoir.
Merci.